croisé sur le slalom et zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, pis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachants, on te promet de te faire voyager sans trop te ruiner.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Hello, ici c'est petit Béliveau, puis vous écoutez CHYZ 94.3, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Il est 4h.
Bon, jeudi tout le monde, il est le 10 juin et il est 4h. Vous écoutez Chérie, j'arrive à l'émission aux ondes de Chiz 94.3. Excusez-moi, je me suis mélangé. Il y a Gabriel Tremblay qui est arrivé en studio qui m'a tout mélangé. Donc justement, on va parler avec lui du spectacle qu'il est allé voir hier, You Do Right. Après ça, on va parler avec Jean-Étienne Colin-Marcoux pour la programmation du Festival Off qui a été annoncé aujourd'hui. On va aussi recevoir Louis Solem, a.k.a. Beluga, à 16h45 pour parler justement de son premier single. Et on va terminer l'émission avec une entrevue avec nul autre que Maestro Bramwell Tauvé, c'est le nouveau chef invité principal de l'Orchestre symphonique de Québec. On va faire un bon petit reportage sur cette programmation aussi qui a été annoncée ce matin au Grand Théâtre de Québec. Donc l'émission de Chérie J'arrive du 10 juin, ça commence maintenant. Et je voulais annoncer à Gabriel Tremblay qui vient parler de You Do Right, mais on va y aller en musique juste avant ça avec Marché des Vivants. Au retour, son compte-rendu du spectacle. We'll be right back. De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Marché de vivants de You Do Right que Gabriel s'est adonné à aller voir hier. C'était où?
Yes. Bonsoir, Félix.
Bonsoir.
C'était au Grand Théâtre de Québec.
Et comment c'était?
C'était chouette. C'était dans le studio, en fait. Donc, je sais pas si vous êtes familier. Ben, vous étiez là ce matin, pour le lancement de l'OSQ. Donc, c'est dans le studio qui n'est pas vraiment un studio, qui est plus un hall d'entrée dans le Grand Théâtre
avec
de Québec.
Avec un bar aussi, un peu.
Exact. Avant, c'était comme une espèce de charpente. C'était un look un peu industriel et construction, si on veut. Maintenant, ils l'ont aménagé et c'est un studio en dehors des grandes salles Octave Crémazie et Louis Fréchette.
Avec une belle fresque numérique qui change à chaque semaine. J'en avais parlé à l'émission. Ouais. Puis, de le voir en vrai, c'est vraiment impressionnant de sa grandeur. C'est à peu près 40 pieds d'eau.
Tout à fait, une œuvre verticale.
Et voilà.
Ça rappelle un peu la Grèce antique avec des aspects psychédéliques. Là. J'ai comme... j'avais un drôle de feeling.
J'ai vraiment été un peu troublé par la présence du gars qui fait des petits mots. On dirait qu'il est kung fu.
Ouais, ça fait penser à Utopia.
Ouais, il est doublé. En plus, il y a deux fois le même gars. Mais oui, c'est une drôle de fresque, mais c'est interactif. Puis c'est, ça ajoute une... Ça ajoute une couleur à un spectacle d'autant plus psychédélique, justement, comme j'ai eu la chance de voir hier avec You Do Right, là, que c'est... Je sais pas si vous connaissez un peu les gars.
J'ai eu le temps de regarder un peu aujourd'hui You Do Right. J'ai eu la difficulté à trouver le band parce que c'était You Do Wrong sur Instagram. Mais oui, en tant que tel, puis j'ai bien apprécié là, justement le son psychédélique de la pièce qu'on vient juste d'entendre, Marché des Vivants. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai sélectionné en ouverture.
Ouais, puis Marché des Vivants, c'est une des seules pièces où on peut omettre de mettre des bouchons parce que c'est très lourd le reste de l'album, en spectacle. Donc ils nous recommandaient fortement de mettre des bouchons. Ils nous en donnaient d'ailleurs avant de commencer la prestation. C'est ça, en fait, l'album en soi dure à peu près 40 minutes et des poussières, et ils ont joué l'intégralité de cet album-là. C'était chouette, ils ont même étiré chaque pièce. Là. Au final, le spectacle durait plus ou moins une heure.
Ben, c'est ça que je vois directement. C'est 8 chansons, 40 minutes, donc c'est quand même des chansons qui peuvent prendre la place, un peu d'improvisation sur les côtés.
Puis ces gars-là, c'est un trio de krautrock, là, donc tous les instruments sont comme prolongés puis étirés, autant les lignes de guide que le drum, c'est tellement une cadence, c'est pendant 10 minutes, okay. Non-stop. Ou puis les effets de guitare aussi vont juste comme faire 3-4 notes, puis ils attirent ça avec plein de fuzz, puis ben, on est parti pour un gros délire.
Puis moi je les connais de nom, je les avais vus passer aussi au Fuck Off l'an passé.
C'est vrai, de là la dernière soirée, la dernière journée pluvieuse du off, pas du Fuck Off.
Non, mais
il était là au Fuck Off aussi, c'est vrai.
Il était là au Fuck Off aussi.
Puis il était là à la petite édition du Off l'été dernier aussi avec Perséide.
D'ailleurs, restez avec nous parce que à 16h30, on va parler avec Jean-Étienne Colin-Marcoux du Festival Off. Mais là, pour faire le tour sur You Do Right, pour quelqu'un qui ne va pas souvent des shows de rock, de métal, d'expérimental, comment est-ce que tu décrirais cet événement qui est un peu, disons, un peu bizarre avec des chanson qui prenait plus de temps. Puis...
Ouais, ben moi j'ai adoré. Par contre, le seul bémol, moi je pense que c'était justement le choix de l'endroit. C'était un très beau booking, on s'entend, sauf que j'aurais aimé voir ce show-là dans un endroit comme le Scanner où la crowd est un peu plus, un peu plus sale aussi.
Avec...
Puis la veine de tout ça. Même au Pantoum, ça aurait vraiment été chouette parce que là, étant donné que c'est sur deux étages et des mezzanines, nous on était en haut, on perdait un peu de son. J'ai l'impression que justement le son n'était pas assez coincé puis cloîtré dans l'enceinte. Là. Puis après, ben évidemment, il y avait beaucoup de distorsions, puis les oreilles en prenaient pour leur rhume.
Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en même temps, tu disais que c'était la musique qui était très très lourde, fait que le fait de l'écouter assis, ça doit avoir assurément changé l'ambiance, du moins la prestation. Puis
tout à fait.
De le voir au Scanner, ça peut amener le côté rapidement dévergondé du public.
Oui, ce spectacle-là, je vais cracher de la bière sur tout le monde, on s'entend.
Mais pourquoi au Grand Théâtre?
Bonne question. En fait, c'est probablement Jean-Claude Anto, directeur de la programmation, qui a fait un excellent booking d'ailleurs pour ce band-là. Je pense que You Do Right sont en train de... d'éclore, sont sur une belle ascension, là, Motland, d'ailleurs, leur maison de disques les pousse énormément.
Ouais.
Et ils ont une certaine notoriété autant sur le marché américain qu'en Europe. Donc, c'est un des gros bands issus de Montréal là, dans cette scène-là. T'sais, pour les fans de Stoner Prog, là, c'est vraiment très, très chouette.
Avec un album qui est sorti que depuis la fin mai. Donc...
Don't Think You Can Escape Your Purpose.
Donc, puis, est-ce que c'est leur premier?
Ouais, ben officiellement, là, ils ont plusieurs petits projets connexes. Ils ont plusieurs EP d'ailleurs de sortie, mais c'est leur premier long jeu officiel.
D'accord. Je sais pas si t'as un mot de la fin.
Non, j'en ai pas.
T'en as pas?
Non, je m'en vais.
Pour la suite des choses, avant de te laisser filer, ouais, parce que t'as pris le temps de venir en studio, qu'est-ce qui s'en vient pour la fin de semaine, pour les semaines prochaines, des spectacles que tu vas voir, des albums à écouter?
Hey man, pas grand-chose. Je joue au golf samedi, puis ça n'a pas rapport avec la culture. Donc, non.
Tu vas écouter les Canadiens quand les matchs vont être gagnés. Oui,
tout à fait. Bon, qu'est-ce que j'ai de preuve? Non, je suis allé voir L'amour est un dumpling avec, avec Gabriel hier.
Ben, on pourrait peut-être glisser un mot rapide tant qu'il y a
sur la pièce. Hey, why not? Si vous avez du temps dans votre programme, les garçons.
Ben oui, on a quelques petites minutes. On va en parler, c'était pas prévu, mais écoute, on n'a pas eu l'occasion.
Ben, c'est vrai qu'hier, on n'a pas eu l'occasion. Donc, si vous pouvez parler de ça, parce que Marie-Lee Picknell et Simon Lepage sont venus en studio mardi lorsque c'était.
L'avant-première.
Et voilà, ils sont venus au début de la semaine. Puis là, vous êtes allé voir ça. Gabriel, de ce que j'ai entendu, ça t'a pas si plus, Gabriel.
Faut juste pas oublier de pas dire l'intrigue.
Oui.
Non, exactement. On va essayer de ne pas dévoiler le punch.
Je vais introduire un petit peu la pièce rapidement. En fait, on a deux amoureux deux ex-amoureux qui se retrouvent au restaurant, dans un restaurant asiatique du plateau Mont-Royal. Rapidement, on remarque qu'il y a une question de tension. Je pense que la quantité de ta gueule dans les 3 ou 4 premières minutes de la pièce, c'était tout de même assez intense.
Il y a beaucoup de
vachier,
ta gueule, con.
Ouais, ben tu sais, c'est très frais. On dirait que ça semble encore très frais, malgré le fait que ça fait comme 7 ans qu'ils se sont pas vus. Puis on remarque qu'il y a vraiment un climat d'inconfort, pas nécessairement de tension, mais vraiment d'inconfort qui crée des silences, puis des, comme moi, j'ai pas grand-chose à dire,
des malaises.
Ça. Puis rapidement, on tourne vers l'intrigue qu'on ne parlera pas nécessairement, mais cette intrigue-là amène son lot de montagne russe entre moments de complicité, nostalgie et aïe aïe, on est vraiment rendu deux personnes complètement différentes. Moi, ce que j'ai aimé au niveau de la pièce, c'est l'utilisation de l'espace outre que directement de la scène.
Tout à fait.
On a sorti de la pièce de théâtre, pas la pièce, mais de la salle de théâtre, puis on a rentré, on a utilisé le décor. Mais autrement, côté performance, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de naturel. Je pense que ça peut être aussi associable à un retour sur les planches après un an et quelques de pandémie et pas d'action. Gab, qu'est-ce que t'en penses?
Justement, moi, ce que j'ai préféré, outre la pièce en soi, c'était le retour en salle, de retourner au théâtre, de profiter d'une pièce plus que le contenu de la pièce, vraiment.
Pour mettre en contexte aussi, c'était où?
C'était au Périscope.
Ouais.
Donc, le Périscope, c'est refait pour neuf, d'ailleurs, dans la dernière année. Mais oui, effectivement, le contexte, en fait, le contenant de la pièce en soi, le fait que ce soit dans un restaurant asiatique, ça amenait beaucoup de clichés faciles.
Ouais, je suis d'accord.
Puis c'est vraiment le gros défaut, le gros bémol de cette pièce-là, parce que sinon, le ton, ça pouvait aller. Il y a une espèce de d'entre-deux entre un langage littéraire, un ton littéraire de conservatoire d'art dramatique, puis l'espèce de naturel d'un théâtre d'été. Il y avait un bel amalgame entre les deux. Je trouvais ça chouette, puis je disais, ça répète une discussion que j'ai déjà eue avec une ex-copine ou une ex-relation. Là, pour le ton, je trouve que ça allait, mais c'était vraiment dans les stéréotypes, là, tellement clichés, faciles. C'était beaucoup trop facile.
Ben, faut dire que c'est une pièce aussi qui a été préalablement jouée à Montréal, qui a été transportée à Québec, qui a été un peu retouchée aussi. Ce que je trouve qui a été un peu dommage, justement, peut-être qu'il aurait pu aller plus loin dans l'adaptation. On avait quand même beaucoup de références montérégiennes, je dirais. Alors, on parlait de 10-30, on parlait de
Saint-Lambert, la rive sud de Montréal.
Je pense que le concept aurait quand même pu être adapté à la région de Québec.
Oui.
C'est des petits détails, mais tu sais,
somme toute, c'est pas choquant parce qu'on a quand même les références. Là. On n'est pas sorti.
Mais c'est tant qu'à l'adapter, tu peux l'adapter un petit peu plus loin en l'amenant à Québec puis en me présentant la façon.
Fait qu'à la place du 30, ça aurait été les galeries Place Fleur de Lys,
le Bourgneuf, Val-Bélair,
Puis je sais pas, au lieu d'être Saint-Lambert, ça aurait pu être Cap-Rouge.
Ouais, ou la rive sud, mettons Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas.
Ouais, exactement. Cette espèce de petite réalité-là qui aurait pu être adaptée. au lieu du plateau, ça aurait pu être Saint-Jean-Baptiste. Ça aurait pu être des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est des petits détails qui, je pense, auraient pu donner un petit côté plus personnel. Puis au niveau de l'adaptation, vraiment. La quantité de clichés, puis voire un peu même limite stéréotype de la pièce. J'ai quand même apprécié, par contre, la présence de la serveuse asiatique dans tous ces petits proverbes, ces petits conseils, les petits malaises qu'elle trouvait. Surtout dans l'espèce de quatrième personnage qui était de la musique qu'elle utilisait à son avantage pour recréer des malaises, que ce soit en grimpant le son au moment où tout s'en venait sérieux. On dirait que ça venait casser l'ambiance directement, ça clashait.
Ah, puis faut mentionner que le dispositif scénique était très bien fait. On s'entend, là, la cuisine était en arrière, il y avait une espèce de rideau, puis la scène, en fait, était la salle à manger du restaurant, ou qu'il y avait seulement deux clients, évidemment. Mais sinon, c'était vraiment bien fait, là. C'était très carré. On dirait une scène de film de Wes Anderson, là. C'était très, très symétrique. Donc, pour ça, bravo.
Ben, ça conclut pas mal ce qu'on avait à dire, parce que sinon, l'intrigue peut arriver très rapidement dans la discussion, il faudrait pas on peut spoiler.
C'est une pièce très courte, hein? 1h15, pile poil.
Ouais, exact.
D'accord, donc ça fait pas mal le tour avec You Do Right, qui était au Grand Théâtre de Québec hier, qui a fait du bruit.
Oui,
qui a fait,
j'en ai encore une acouphène sur deux. Parce que j'ai enlevé un bouchon parce que j'entendais pas le drum assez bien. Là, donc voilà.
Puis on a parlé aussi de L'Amour est un dumpling, qui est au Théâtre du Périscope jusqu'à fin juin, le 19, si je me trompe pas, la dernière présentation. Ouais,
16-18.
Avec quelques supplémentaires
ouais,
aussi,
c'est ça,
d'annoncer.
Donc on vous conseille d'aller voir ça. Nous, on va se laisser en musique avec Travailleur autonome de Command de bord. Retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Merci à Gabriel Tremblay d'être passé pour nous parler de musique, mais aussi de théâtre. Et on vient d'écouter la pièce Travailleur autonome. Et ben, on est dans un thème de vidéoclip. Enfin, on vous a fait écouter cette chanson-là parce qu'on a aussi écouté justement le vidéoclip qui est sorti cette semaine, mettant en vedette Rémi-Pierre Paquin. Je voulais en parler hier. Hier, on a eu plus de sujets que prévu. Donc aujourd'hui, on prend un petit 5 minutes pour faire un retour sur un vidéoclip qui m'a quand même touché parce que ça parle de les personnes qui sont prises dans le cycle infernal de leur job, qu'ils peuvent pas tant profiter de soit la vie normale ou soit l'anonymat. Qu'est-ce que t'en as pensé, Gabriel?
Ben, comme les Parisiens disent, métro, boulot, dodo. Hein.
Et voilà.
C'est vraiment un peu ce qu'on peut voir dans le vidéoclip où Rémi-Pierre Paquin joue le personnage principal. On parle d'un homme qui est impliqué en politique à ce moment-là. On peut laisser même paraître peut-être un chef de parti. On le suit à travers, me semble-t-il,
campagne électorale.
Une campagne électorale. Mm-hmm. On le voit dans le bus en train de rêvasser un petit peu. C'est vraiment extrêmement touchant parce que on commence la chanson en disant « Je m'ennuie de faire du char avec ma sœur et mon frère. De faire de tout ça dans un pyjama, je suis un cervidé. » Bref, on voit vraiment que on s'ennuie de la vie normale, on est nostalgique par rapport à une espèce de la banalité de l'enfance, de notre bon vouloir de vivre dans le plaisir et tout. Puis rapidement, on fait une espèce de petit parallèle avec le cervidé dans le bouclier canadien, mais qui est entre des pylônes, donc un cervidé
qui est pas vraiment sa place.
Donc on peut laisser transparaître déjà un premier couplet que on s'ennuie de quelque chose, qu'on se sent pas à sa place. Et le premier couplet termine en disant « Je suis travailleur autonome de mon propre malheur. » Donc ouais. J'assume quand même le fait que c'est ma job, puis je suis un peu pogné là-dedans. Mm-hmm. Mais honnêtement, le non-verbal puis les expressions faciales de Rémi-Pierre Paquin dans ce vidéoclip-là, elles sont frappantes.
Puis justement, à travers cette campagne électorale-là, où il va dans des usines à bois, il va, comme tu l'as dit, il fait des tournées en bus, il va aussi dans une chambre d'hôtel. Moi, il y a un moment dans ce vidéoclip-là qui m'a quand même touché où justement ce politicien-là se fait livrer de la pizza, puis décide d'inviter le livreur de pizza à prendre une bière pour un peu se commémorer c'était quoi la vie normale de juste prendre une bière avec un ami, de pas nécessairement rentrer dans ce cycle vicieux de travail ou comme tu l'as dit, métro, boulot, dodo. Et puis, je trouve ça assez spécial que Commande de bord a fait appel à Rémi-Pierre Paquin. Je trouve que c'est justement, il fait bien, il représente bien, comme tu l'as dit aussi, avec les expressions faciales, aussi son talent d'acteur qui n'est plus approuvé. Je me rappelle, entre autres, dans Les Invincibles, qui est incroyable. Il joue dans plusieurs séries québécoises et des films. Donc,
on l'a vu aussi dans la mini-série documentarisée de Gab Bouchard récemment, vraiment dans les productions qui se sont faites de façon pandémique. Là. On voit même que dans la vidéo de Commande à bord, les gens qui l'entourent dans une proximité de moins de 2 mètres portent le masque. Ouais. Donc, c'est vraiment contextuel aussi. Je te laisse continuer où t'en étais.
Ben, pour aussi faire du chemin sur le fait d'être dans cette vie qu'on assume finalement parce qu'on l'a choisi, d'être dans une vie qu'on travaille beaucoup, mais en même temps qu'on s'ennuie des moments plus normaux, naturels, même envie de dire. C'est important aussi de dire que dans ce vidéoclip-là, c'est un politicien qui est mis de l'avant, mais on dit aussi dans le communiqué qu'on a reçu que ça aurait pu être n'importe quel domaine professionnel qui est mis de l'avant parce que dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui font de l'overtime, du temps supplémentaire. Il y a des gens qui sont exténués, mais qui continuent parce que ils veulent faire bien leur travail, mais qui ils ont plus le temps de voir leur famille. Donc, ça fait réfléchir comme vidéoclip. Je trouve que c'est, un vidéoclip avec beaucoup de budget, mais c'est très réussi pour Commande de bord, avec justement leur album éponyme qui avait fait beaucoup réagir, qui font partie, qui représentent peut-être, mais qui font partie de cette vague émergente de musique indie. Mais comment est-ce que tu décrirais ça?
Ah, en fait, l'album est tellement riche en thématiques et tellement, au niveau des instruments, c'est tellement riche aussi. C'est difficilement définissable, je dirais.
Peut-être dans le folk un
peu. Oui, j'irais même à dire qu'il y a assurément des tonalités de rock là-dedans. Là.
Oui.
Rock engagé d'une certaine façon, ça semble porter un discours qui est souverainiste, mais juste ce vidéoclip-là avec...
Ben, c'est important aussi de dire que le parti de je me rappelle plus du nom, mais de Rémi-Pierre Gérard Paquin, excuse-moi. C'est Mouvement Québec, donc un petit côté souverainiste.
Peut-être qu'on peut retrouver là-dedans. Puis pour revenir à quelque chose qu'on parlait, tu parlais de l'importance de l'emploi pour certaines personnes. J'aime bien dire que dans la vie, Tu sais, je travaille pour vivre et non, je ne vis pas pour travailler.
Oui.
Tu sais, c'est en inversant ces deux mots-là qu'on peut vraiment comprendre que c'est le fun de travailler. Puis je dis pas que les gens qui sont passionnés par leur métier, on n'a pas le droit d'y vivre à 100%, mais il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur du travail, il y a d'autres choses. Que ce soit nécessairement la famille dans laquelle on peut faire des allusions, que ce soit à l'amitié qu'on peut voir aussi dans cette vidéo-là. Oui. C'est quand même des grosses thématiques qu'on touche. Puis on voit spécialement la scène où il invite le livreur de pizza. L'émotion faciale, il a l'air complètement désabusé. Là. Il a l'air complètement fini de sa journée. Il n'a plus sa cravate au cou. La chemise est déboutonnée aux trois quarts. J'imagine qu'ils ont fait un petit travail de maquillage. Il est cerné. c'est extrêmement frappant de voir le personnage progresser à travers le vidéoclip. Puis on le voit à la fin, il est assis sur le trottoir en train de fumer une cigarette puis boire une bière. Puis on se dit en même temps, si c'est le chef d'un parti électoral qui est en train de boire une bière, en train de fumer une cigarette sur un trottoir de je sais pas quel endroit, très urbain, on parle de temps ville, ça témoigne quand même de... Je rendu là, je m'en fous. Genre, j'ai juste besoin de vivre de quoi, puis j'ai juste besoin de laisser ça de côté parce que je pense pas croiser François Legault assis sur, je sais pas, moi, sur Saint-Joseph, assis sur un trottoir en train de boire une bière. Ça me surprendrait bien gros, sauf si c'est sur une terrasse.
Évidemment, j'aimerais ça conclure ce segment par les paroles justement qui disent « Je suis travailleur autonome de mon propre malheur », donc qui est un peu assumé ce travail-là, mais en même temps... On veut s'en sortir.
Exact.
On va y aller en musique avec le défi de l'amour de Lumière, avec c'est sur son nouvel album Ami Amour. Et après, on va recevoir via appel téléphonique Jean-Étienne Colin-Marcoux, entre autres connu pour son travail au Pantoum. Mais là, c'est aussi le directeur de la programmation du Festival Off qui aura lieu à Québec du 7 au 10 juillet. On va vous parler de qui ont choisi cette équipe pour leur donner des vitrines.
Thank you. Suivre l'actualité à tous les jours, c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Au Club Critique, on donne toujours notre 110%.
Cette tune-là fait clairement pas les ligues majeures.
On a la meilleure équipe.
Quand j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant 2 minutes pour interférent.
Au cœur de l'action,
je fais une passe sur la palette. Je veux plus rien savoir de cet album-là.
Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux.
D'ailleurs, c'est le fondateur de ce concept-là.
Des mises en échec jusqu'aux étoiles du match.
Tarsus-là, je vais prendre à mon équipe demain matin.
Guillaume, Gabriel,
Émilie.
On va la mettre dans le net top corner.
Tous les mercredis, 13h.
Retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et aujourd'hui, bien, c'est la journée du dévoilement de la programmation du Festival OFF qui aura lieu du 7 au 10 juillet 2021 à Québec et bien, je voulais avoir une discussion avec justement celui qui est arrivé avec cette programmation-là et je vous présente Jean-Étienne Colin-Marcoux. Salut Jean-Étienne, ça va bien?
Salut, ça va bien toi?
Oui, je voulais qu'on discute de ça parce que c'est beaucoup de noms, évidemment des talents émergents. Puis je voulais que tu me dises un peu aussi comment ça s'est fait ce booking-là. Donc, je sais pas si tu as déjà quelque chose à dire sur la programmation dans l'ensemble.
Ben écoute, on est fidèle au off, à nos habitudes puis au concept du festival qui reste un, comme si bien dit sur notre affiche, qui est un festival indépendant de musique, de découverte musicale.
Ouais.
Donc, c'est un festival qui est axé sur non seulement la découverte comme en termes d'émergence puis de nouveaux artistes qui sont issus de la ville de Québec, mais c'est aussi un festival de découverte en termes de nouvelles de nouveaux projets, de nouvelles musiques puis de trucs plus originaux là, qui sortent un peu des sentiers battus là, au niveau musical.
Ouais, puis c'est des artistes aussi, ben comme tu le dis, qui sont à découvrir parce que c'est souvent des artistes qui n'ont pas beaucoup de matériel de sortie, donc ça va être puis je sais pas si tu peux me le dire s'il y en a quelques-uns que c'est leur première fois sur scène.
Ben, je pense entre autres à un artiste de Québec qui s'appelle Worry,
oui.
Le projet de Kerry Samuels, qui a été réalisé par Joey Proto, qu'on connaît sous son pseudonyme Gaspard Eden. C'est ça, c'est un nouveau projet de la ville, le EP vient presque tout juste de sortir. Ça va être la première performance sur scène pour cet ensemble-là. Même chose, en fait, pour la formation de Montréal qui s'appelle PAB, qui est un projet quand même, c'est des gens qui jouent avec plein d'autres groupes. Je pense entre autres à Marie-Ève Aranisson, qui sont à Charles-David Duvet, qui sont copains, mais qui est aussi le réalisateur du projet, qui était dans un groupe qui s'appelle Or dans le temps. C'est leur projet à deux, mais c'est la première fois qu'ils vont se présenter sur scène, là, dans le cadre vraiment un show live en présentiel, là, si tu peux réutiliser ce terme galvaudé pendant la pandémie. Là. Mais dans le sens, un réseau avec des gens, tout ça, c'est la première fois, le chant pour Pab, pour Worry. Je pense aussi à Charlotte Dourceau, qui a lancé son album cet automne, justement, au Phantom, mais qui était vraiment en mode lancement virtuel. Mais là, pour la première fois, elle va se présenter sur scène avec son band, avec un projet. ben, son nouveau projet en fait à elle dans le cadre du Hurf.
Puis, il y en a aussi qu'on a vu au festival de Focoff, je pense à Gabé, à Juillet, si je ne me trompe pas, qui était aussi justement à ce festival. Mais comme tu l'as dit, ça, c'était plus virtuel. Là. Ça va être la première fois qu'ils vont être sur une scène en présentiel. Est-ce que ça, c'est un peu une question à double tranchant? Est-ce que tu as des coups de cœur personnels dans la programmation que vous avez au festival OFF?
Ah ben oui, c'est sûr. Bon, j'en ai quelques-uns. Ben je pense entre autres un de mes coups de cœur qu'on a présenté, ben en fait, il est pas encore sorti la session, c'est qu'on a présenté dans les sessions Pantoum boutique de un artiste autochtone qui s'appelle QO52, qui est vraiment un de mes coups de cœur, j'ai vraiment hâte au spectacle. En fait, j'ai hâte de le voir en show au vrai devant du monde parce que la performance qu'on a tournée puis qui va sortir justement dans les prochaines semaines était totalement explosive. Là, c'était vraiment comme quelque chose de fou. C'est dans en fait, lui, c'est un artiste hip-hop ultra revendicateur, qui parle justement de beaucoup de la condition des Autochtones, puis sur les réserves, puis ça, puis qui est extrêmement corrosif dans ses propos, puis qui est extrêmement pertinent. Surtout, là, c'est vraiment quelqu'un de super impliqué dans sa communauté aussi, puis qui a vraiment des choses ultra importantes à dire. Puis là, il est backé par un super band de tueurs, là, carrément, là, de utiliser cette expression un peu, de vraiment des super bons musiciens là, qui l'accompagnent, puis c'était pas seulement du Rage Against the Machine, mais avec un propos qui est actuel et qui est pertinent, surtout dans ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Là.
Exactement, on a bien de voir ça. Je suis en compagnie de mon co-animateur Gabriel Arcand, il y avait une question pour toi.
Salut, en fait, je m'en allais justement un petit peu plus tard, peut-être dans notre entrevue, parler de QO52. C'est un solide rap, en effet, j'ai eu la chance d'en écouter un petit peu tantôt l'artiste d'origine gaspésienne, mais principalement de la communauté Mi'kmaq. J'imagine, est-ce que c'est venu naturellement de diriger vers cet artiste-là? Je pense aussi au niveau du multiculturalisme et tout. Vous avez aussi Deville, qui est un duo québécois et marocain. Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez vraiment mettre de l'avant cette saison-ci, cette présentation-ci du OFF cet été?
Ben oui, tout à fait. En fait, ça a toujours été dans les valeurs du OFF. Le OFF, c'est un festival qui est indépendant. C'est un festival qui a énormément de marge devant l'œuvre, puis en fait, qui est totalement libre dans ses choix de programmation, puis dans son choix un peu plus comme éditorial, si tu veux, en termes de direction de programmation. Fait que c'est sûr que, c'est oui, nous, on partage ces valeurs-là, puis on veut présenter de la diversité. C'est super important pour le OFF, puis on se fait vraiment personnellement, on se fait vraiment comme une fierté, justement, d'avoir le plus possible d'artistes qui sont issus de la diversité. Puis tu sais, c'est quand même quelque chose, en fait, à mon avis, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on force, parce que c'est sûr que nous, on risque quand même, tu sais, notre objectif, c'est de présenter de l'émergence, puis présenter des découvertes musicales, mais il reste qu'en ce moment, au Québec, il y en a plein d'artistes qui sont issus de la diversité, qui ont des projets qui sont tellement pertinents et qui sont super intéressants, comme QO52, entre autres comme Deville aussi, qui sont des projets qui méritent vraiment d'avoir plus d'attention et d'être connus, surtout plus à Québec, tout ça. Fait que c'est sûr que nous, c'est juste c'est des occasions en or. Puis oui, c'est sûr que c'est important pour nous d'être le plus représentatif et diversifié, puis ça fait partie vraiment de nos valeurs en tant que festival. Fait que on essaie de mettre ça de l'avant le plus possible.
Merci de m'avoir corrigé sur QO52. J'ai dit QO52. Je vais le rajouter à mon vocabulaire, vu que ça fait pas longtemps que j'ai découvert.
Y a pas trop, écoute,
Tantôt, tu parlais justement d'un peu découvrir des nouveaux styles de musique. Je pense à Deville, justement, pour y revenir. On a quand même une musique qui est d'inspiration de la musique du monde, voire de la musique raï, qui est l'équivalent du pop moyen-oriental puis maghrébin. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu aimerais nous parler pour l'unicité de leur son, que ce soit vraiment juste, je sais pas, un band qui sort de l'ordinaire avec leur sonorité?
Je pense entre autres, il y a le band Lumière, là, qui ça reste quand même quelque chose de très pop, mais qui actuellement fait, en tout cas à mon avis, amène vraiment un super intéressant vent de fraîcheur sur les prods plus pop québécoises francophones. Là. C'est comme, il y a vraiment une essence qui est super vintage. C'est un album qui a été réalisé aussi d'une façon qui se fait plus tant aujourd'hui. Dans le sens, c'est des musiciens qui ont joué tout live. C'est un gros trip de band, tout ça. Fait que là, de l'avoir, lui, d'arriver justement avec cette couleur-là, qui est super vintage, mais qui est pas le vintage émulé, qui est vraiment comme faite avec les bonnes, les bonnes méthodes, les bonnes mentalités. Je pense que lui, justement, ça nous amène avec un son qui est super unique. C'est sûr qu'on a déjà parlé de Deville puis de QO52. J'essaie de me rappeler un peu rapidement la prog avec les autres. Je pense que au niveau de la réalisation, ça, c'est quelque chose. Les mélodies vocales sont poussées comme du Mariah Carey. C'est vraiment super impressionnant vocalement. C'est super pop, mais la prog qui est en arrière de ça, la réalisation est super originale au niveau des arrangements. Ça, c'est une espèce de hip-hop expérimental qui est vraiment poussé puis qui est super efficace. Fait que c'est tous des groupes, là, je pense, qui ont leur marque. En fait, vraiment, chaque groupe au off, puis ça, je pense que c'est même à chaque année, chaque groupe a son identité. Puis ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. T'sais, on n'a pas, il n'y a pas aucun band qui se ressemble vraiment. T'sais, même. Mais c'est sûr qu'il y a certaines similitudes. On reste dans des choses qui se présentent quand même relativement grand public. C'est sûr qu'en comparaison, mettons, à nos programmations passées, où on se permet un petit peu plus de naviguer comme dans la musique expérimentale, puis même dans le jazz, puis dans le classique, là, c'est plus dur cette année parce que les shows au festival sont extérieurs. Donc, c'est sûr que ça permet pas. Il y a comme des artistes qu'on peut juste pas faire venir parce que le setup de plus de festivals extérieurs n'est pas nécessairement propice à ces shows-là. On peut juste. D'un point de vue technique, peut juste pas se présenter. Fait qu'on reste quand même dans quelque chose qui est quand même plus grand public, plus facile d'accès, mais chaque groupe a son univers et son identité, le musical, puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui rend le festival là, super riche là, puis pertinent.
C'est assez clair, justement, comme programmation, que chaque band a son unicité. Je voulais terminer avec un volet un peu plus technique, là, parler de vente de billets, parler du format de cette édition 2021. Comment est-ce que les gens peuvent se procurer leurs billets pour les spectacles du 7 au 10 juillet?
Tous les billets sont sur la plateforme de point de vente ou sinon disponibles à la page Facebook du Off. C'est relativement super facile. Puis aussi, évidemment, via notre site web. Donc, c'est super facile à trouver. Les billets sont au coût de 100$ par spectacle. Il y a juste pour le spectacle de Mayfly qui est présenté en brunch à la Barberie le dimanche. C'est gratuit sur présentation d'un billet d'un autre spectacle.
Fait que c'est vraiment pas cher là, pour voir des artistes qui vont grandir après ça. C'est vraiment donné littéralement.
Oui, effectivement. C'est la chance de pouvoir dire hey, je les ai vus en premier, leur premier show à Québec. Là, c'est là. Fait que pour 5$, c'est quand même. C'est pas si pire.
Puis je me demandais, en temps de COVID, qui, on l'espère, va terminer avec la vaccination, le format, est-ce que ça va être tout des shows présentiels? Est-ce qu'il va y avoir un volet virtuel? Peux-tu me donner des précisions à ce niveau?
Pour l'instant, on parle uniquement de spectacles vraiment live sur place là-bas. Il est pas exclu, c'est sûr que si la situation sanitaire là, évolue, mettons, pour le pire, puis qu'on doit se réajuster, peut-être que là, si jamais on doit réduire la jauge là, de la capacité, peut-être qu'on va devoir faire une partie virtuelle, mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. Donc, continuez avec ça. Puis dans le meilleur des mondes, peut-être qu'on va être capable de rajouter quelques billets. D'ailleurs, en ce moment, on disait là, que les billets sont presque à moitié... En fait, sont plus la moitié des billets sont vendus, donc là, il en reste déjà quand même très peu, fait que si les gens sont intéressés, là, c'est quand même le temps d'aller les acheter. Puis sinon, c'est ça, peut-être qu'il n'est pas exclu que si jamais la situation s'améliore au niveau sanitaire, peut-être qu'on pourra avoir d'autres places. Là.
Exactement. Puis, avant de te laisser filer, ben, tu as parlé de la Barberie, mais tu n'as pas parlé du lieu où tous les autres spectacles vont avoir lieu. Je ne sais pas si tu peux nous annoncer ça.
Oui, c'est dans la cour de l'atelier créatif, le réacteur, là où l'ancienne maison des Pinfoutiers, là où il y a eu le spot en 2015 aussi. Donc, tu prends des bretelles d'autoroute, là, puis en arrière, en fait, d'une nouvelle Aubrivière.
Et voilà.
C'est le stationnement court là, qui est là.
Sur la même rue là, que le Méduse.
Exact.
Et voilà. Ben merci beaucoup, Jean-Étienne Colin-Marcoux, directeur de la programmation du Festival Off de Québec, qui va avoir lieu du 7 au 10 juillet. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce festival et des artistes que vous avez décidé de booker. Merci beaucoup d'être passé à l'émission.
Ah ben merci à vous.
Salut.
Bye.
My cap aux oraux, mes pieds dans l'eau, le sourire aux lèvres, ma cap aux oraux, vouloir marier la lune, se fabriquer des ailes de plumes, ma cap. pour les yeux, là où la mer rejoint les cieux. À cap aux eaux, nager dans l'immense, nos esprits en transe. À cap aux eaux, arriver naufragé, ressortir capitaine. À cap
Vous écoutiez Cap aux os, c'est de Beluga et c'est en écoute exclusive sur le canal auditif. Ça sort demain et on reçoit justement ce cher artiste Beluga en studio. Salut, ça va bien?
Salut, ben oui, toi?
Oui, Louis Solem qui est revenu d'un tournage d'avance, donc on a la chance de l'avoir en studio aujourd'hui. Yes. Je voulais qu'on se parle évidemment de ce single-là, de ce projet-là, de comment est-ce que ça a commencé, mais je voulais aussi parler un peu de tes débuts en musique. T'as commencé avec un violoncelle à ouais. Montréal. Après ça, tu t'es amené à Québec pour le conservatoire.
Ouais.
Comment est-ce que, finalement, premièrement, comment est-ce que t'as découvert la musique? On pourrait commencer par ça.
Ben, c'est ça, en fait. Moi, mes deux parents sont musiciens. Ma mère est professeure de violon. Mon père, c'est un luthier pour les violons, violoncelles et alto.
Ouais.
Donc moi, j'ai vraiment grandi dans le milieu classique. À Montréal, on allait voir les concerts d'orchestre et tout ça. Mes parents, ils connaissaient tout le monde du milieu. Puis j'ai grandi avec une instruction musicale classique. J'ai un frère et une sœur qui ont fait ça aussi. Ça faisait partie du bagage culturel que mes parents voulaient nous léguer, finalement.
Comment est-ce que c'était proposé? Est-ce que c'était fortement suggéré ou c'était...
Non, nous c'était... La musique était obligatoire jusqu'à 16 ans.
Ah oui.
Après ça, on pouvait choisir ce qu'on en faisait avant, après. Mais ouais, en fait, ça, c'est vraiment un espèce de bagage culturel et de valeur que mes parents voulaient nous laisser parce mm-hmm. qu'apprendre un instrument de musique classique, quand t'es jeune, ça demande beaucoup de discipline et de persévérance. Et je le remarque chez mon frère et ma soeur qui font pas ça aujourd'hui, mm-hmm. mais ça reste quand même dans les façons de travailler et d'apprendre cette discipline-là. Et les personnes qui ont appris un instrument jeune sont souvent des personnes qui ont une bonne discipline personnelle et aussi éthique de travail.
Mm.
Donc voilà, c'est un peu ça le leg que mes parents voulaient laisser.
Le violoncelle, c'est toi qui as choisi?
Oui, ben oui, c'est ça. En fait, j'avais commencé le violon de 4 à 7 ans.
OK.
Et j'étais pas bon, en fait. Puis ma mère étant prof de violon, elle voyait bien. Puis j'étais allé à un camp musical à Québec, justement, avec elle. Puis durant 2 semaines, j'avais essayé le violoncelle. Puis ben finalement, après 2 semaines, j'étais rendu meilleur au violoncelle qu'en 3 ans de violon.
C'est le fun quand même, le violoncelle. Je me suis adonné. Moi, j'ai fait du piano et du violoncelle, ouais. Mais ça devenait un peu compliqué, là, surtout au niveau du déplacement. Le violoncelle, c'est, ouais, c'est un peu c'est particulier. Évident. Puis là, aujourd'hui, dans Beluga, si je me trompe pas, il n'y a pas de violoncelle.
Pour cette chanson-là, non, mais sur les autres, assurément oui. En fait, c'est la seule chanson du EP que j'ai enregistré qui n'a pas de violoncelle.
Mm-hmm. Puis sur ça, justement, l'histoire raconte. Par le titre Capodos, que tu as composé ça dans cette région de la Gaspésie, ouais. Où tu as été inspiré par justement Capodos, mais c'est plutôt à la guitare, donc tu as continué ton exploration musicale avec d'autres instruments?
Oui, en fait, j'ai commencé la guitare quand j'étais en secondaire 3-4, okay. Je pense. Ma mère m'avait donné sa vieille guitare classique 3 quarts qu'elle avait quand elle était jeune. Et j'ai appris sur ça en jouant du Bob Dylan, puis du Pink Floyd et tout ça, puis du Jean Leloup, les bons vieux classiques. Et au fur des années, la guitare, c'était vraiment un moment de repos pour moi. Je jouais de la musique toute la journée, ouais. Souvent. Et dans mon lit, le soir, je jouais un peu, j'apprenais des chansons, puis avec le temps, je me suis mis à écrire aussi un peu. Puis l'écriture, en fait, est arrivée il n'y a pas si longtemps dans ma vie. J'ai commencé à écrire... J'avais commencé à écrire des chansons, en fait, quand j'étais au cégep. Quand j'étais au cégep de Joliette à 17 ans, j'ai quitté Montréal pour aller un an à Joliette, mm-hmm. Me ressourcer un peu en région.
En région, exactement.
Puis voilà, puis c'est ça, puis j'ai commencé à composer là, en fait.
D'ailleurs, en parlant de composition, est-ce qu'il y a de ces chansons de ton âge de 17 ans qu'on aura la chance d'écouter sur ton album? Est-ce qu'on a des bribes de ça, non? C'est vraiment quelque chose que t'as scratché, mis de côté, puis t'as recommencé? C'était non, en plus de pratiquer la plume à ce moment-là?
Non, c'est ça. En fait, à l'époque, j'étais un bon hippie. J'écoutais du trio à côté, puis je composais un espèce de reggae à la trio. Là,
oh, wow. Ça devait être très très bon.
C'était bien cool, mais ça va.
Ça l'a fait de son temps.
Voilà.
Ben, justement, je me demandais le passage aussi de l'adolescence, aussi du passage à l'âge adulte, t'as comme un peu dévié ton parcours complètement. T'es passé d'un début plus classique à aujourd'hui quelque chose qui est plus folk, quelque chose qui est plus justement, t'as aussi changé d'instrument.
En passant par le reggae.
Oui, en passant par le reggae.
Qu'est-ce qui t'a mené à peut-être pas tant de quitter le classique, mais plus de choisir de t'imposer dans un autre genre?
Ouais. En fait, c'est ça. Moi je suis arrivé à Québec pour les études au conservatoire, oui. Que j'ai terminé en 2019. Mais c'est vraiment mon séjour à Joliette qui m'a ouvert sur les autres styles et jouer autre chose que du classique.
Puis percevoir la musique différemment aussi.
Oui, c'est ça. En fait, à Joliette, j'ai eu mon premier band. On a fait une tournée de deux spectacles,
yeah.
à l'Abbé et à Tadoussac.
Cool!
Puis j'avais trippé sur ça. Je trouvais ça malade de pouvoir créer mes propres lignes parce que, ouais. J'avais toujours joué de la musique avec des partitions, finalement. Ouais. J'avais jamais composé rien parce qu'en classique, c'est pas comme ça que ça marche. Puis j'avais vraiment trippé. Puis en arrivant à Québec, en fait, j'avais ce désir de rencontrer du monde pour créer de la musique. Mm-hmm. Puis au fil du temps, j'ai rencontré Philippe Bourque, qui est un bon ami à moi, avec qui on a de multiples projets, et Émile Vigneault. Puis on avait fondé L'Aurore en 2017, qui était mon premier projet ici à Québec. Et c'est avec vraiment ce projet-là qu'on a appris, Phil et moi, avec Emile aussi, à monter un projet musical, finalement. C'est quoi les différentes étapes, la composition,
le fameux DIY, ouais. Qu'on entend, le do it yourself.
Ouais, on a fait tout, on a fait des shows sold out au Cercle, on a fait des tournées québécoises une couple de fois, tu sais, on a vraiment tout fait ce qu'on... ce qu'on pouvait faire du haut de nos premières expériences. Mais ça fait que Philippe Bourque et moi, ben on a cheminé là-dedans un peu. Lui, il a lancé son projet Philbourg, qui a lancé son album il y a pas longtemps, puis qui est au Festival Off aussi.
L'album ici, où on peut aussi dire 1-0-0-1-1-0. En tout cas, je dirais pas toute la suite, mais
voilà la chanson de Aldi, 0-1-1-1.
Mais ouais, c'est ça. Puis ben finalement, j'ai un peu évolué là-dedans. Je me suis mis à accompagner du monde aussi au violoncelle. Mm-hmm. J'ai commencé à fréquenter les scènes du pantoum, puis la musique émergente. Puis là, ben, j'ai rencontré du monde. Puis là, je t'ai demandé pour faire des spectacles. Puis là, ben, finalement, je me disais, ah ben, je pourrais écrire moi-même mes partitions de violoncelle. Ouais. Fait que là, je suis devenu arrangeur. Je me suis un peu enfargé dans ce métier-là, finalement. Puis ben, aujourd'hui, j'écris des partitions pour une couple d'albums.
Ben, on se voit aujourd'hui parce que ben, Beluga sort Cap aux os demain. Puis justement, tu parlais de ces rencontres-là, de Philippe Bourque. Tu t'es aussi entouré de Laura Lefebvre. Tu parlais du Pantoum. Ouais. Donc, Laura Lefebvre, qui est une habitude du Pantoum. Il y a aussi une co-réalisation avec Samuel
Wagner,
justement, qui est connu pour Arfan puis pour Flo. Mais justement, De cette équipe-là, ce projet-là, ça s'en va où, en gros? C'est pas mal ça, ma question.
Ben, en fait, moi, j'avais composé des chansons un peu vraiment dans une idée d'introspection.
Okay.
Et j'ai composé beaucoup ces chansons-là sur la route. Je suis vraiment profondément touché par le territoire québécois. C'est vraiment quelque chose qui m'ébranle à un très haut point. Et pour moi, c'était important de chanter la richesse et la beauté de ce territoire-là. Et je pouvais pas faire ce projet-là avec nul autre que des bons amis à moi. Puis Philippe Bourque, c'est un très bon copain. Sam aussi, on a collaboré ensemble sur plusieurs projets. On a co-réalisé ensemble l'album d'Anthony Roberge. On a travaillé sur l'Aurore aussi ensemble, bref. Puis Laura aussi, c'est une super, super amie à moi. Mm. Puis Olivier Laroche aussi, à la batterie, c'est un super copain. Donc...
C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais oui. Olivier Laroche aussi, pour Fudge.
Voilà. Puis pour moi, c'était vraiment important que ce projet-là soit avec des amis. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le nom Beluga, c'est que je voulais séparer Louis Solem de Beluga. Parce que Louis Solem, c'est l'arrangeur, c'est le...
C'est plein de trucs, en fait.
C'est plein de trucs, en fait.
Puis Beluga, c'est un projet en particulier.
Puis avec le projet Beluga, je voulais me laisser la place de rester sensible et un artiste, finalement. Parce que dans le métier, finalement, de musicien, il y a beaucoup, beaucoup d'organisation. Puis il faut être comme très, très tête. Puis il y a son affaire.
C'est difficile de se perdre, comme tu l'as expliqué aussi.
Ben oui, c'est ça. Puis avec Beluga, je voulais juste être là pour la musique.
Okay.
Puis c'est important pour moi faire ça.
Fait que dans le fond, là, on t'es vraiment beaucoup inspiré au territoire québécois, comme tu disais. Donc, j'imagine pas que ta chanson préférée, c'est entre Matane et Bâton Rouge. Mais dans les autres grandes chansons, on remarque que t'as vraiment un talent de parolier. C'est super bien écrit, ce qu'on a entendu tantôt, Capozzo. Est-ce qu'il y a vraiment une chanson que tu peux peut-être dire, ça, c'est la chanson qui m'a donné le goût d'écrire sur le territoire québécois?
Oui, je pense que c'est...
La hymne de ta vie, à la limite.
Ben oui, moi, c'est... La première chanson qui m'a fait pleurer, en fait, qui raconte ça, c'est il va toujours y avoir de Richard Desjardins.
Mm. Un choix d'un parolier tout de même assez incroyable. C'est dans les plus beaux, à mon avis.
Parce que, tu sais, quand on dit il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier, tu sais, du vent sur le Saint-Laurent, c'est comme c'est des vérités tellement crues et qui n'avait pas été vraiment dite avant.
Pas illustré, pas imaginé. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est un beau choix de parolier. Est-ce que c'est une des personnes qui t'a influencé le plus, assurément? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec, je pense à Fred Fortin, qui a tout de même son qui est quand même une belle plume. Je pense à Daniel Bélanger aussi.
Ouais.
Donc, on parle de Richard Desjardins dans une autre génération de musiciens, ouais. Mais plus plus près de toi, pardon, est-ce qu'il y en a un de ces compositeurs-là que tu as peut-être eu la chance de rencontrer qui tu te dis, hey, ça, c'est solide, ce qu'il fait, c'est beau, ça marque?
Ben, moi, je m'identifie beaucoup à la grande chanson québécoise.
Ouais.
Pour moi, c'est une.
Une fierté.
Ben oui, puis c'est un catalogue qui ne doit pas être oublié, puis c'est un catalogue qui doit rester vivant. Et moi, mon apport à cette roue, c'est de m'imbriquer un peu dans cette tradition-là, d'aller dans la même direction que les Gilles Vigneault puis les Claude Gauthier. T'sais, j'ose pas m'y comparer ouais. mais
t'aimerais un jour peut-être pouvoir placer quelques chansons dans ce répertoire-là, puis je pense qu'en illustrant aussi bien des zones, des régions, comme tu penses peut-être le faire dans les prochains projets à venir, ouais. Je sais pas si c'est quelque chose que tu voudrais faire, de faire des albums thématiques de régions. Est-ce que c'est quelque chose que tu accrocherais des sentiments? Tu parlais tantôt que t'étais un peu ému parfois en te promenant partout au Québec. Est-ce qu'il y a des régions en tant que telles que tu dis, ça, absolument, faut que j'écrive de quoi, faut que je faille faire une retraite là-bas pour pouvoir écrire?
Ben, j'ai pas encore digéré mon passage à la Côte-Nord l'été passé.
Okay.
Passer Havre-Saint-Pierre, c'est décollissant. Hein.
C'est simple que ça.
C'est pas parce que t'arrives devant un territoire vierge que tu sais que sur des centaines et des milliers de kilomètres, il y a de l'eau, de la mousse et des caribous. Mm. Puis, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais, tu peux pas faire grand-chose, là.
Okay.
Puis j'en suis pas encore revenu vraiment, là. Ça m'a profondément ébranlé, cette partie-là du monde. D'ailleurs,
qui est à nos portes, tout de même. On est ici, on habite ici. Ce qui est pas à nos portes au niveau des heures.
Oui,
mais...
non, mais c'est ça. C'est
plus à nos portes qu'un Français qui aimerait venir sur la côte nord.
Oui, oui, non, mais non, mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis moi, c'est vraiment mon. Ce que je veux vraiment que le monde il saisisse, en fait, en écoutant ma musique, c'est que justement ces places-là sont accessibles à tous, tu sais.
Voilà.
Puis ce serait dommage de passer à côté, parce que pour moi une grande partie de l'identité culturelle québécoise passe par son attachement au territoire. Selon moi, c'est comme le premier tronc commun de qu'est-ce qui fait qu'on est québécois, c'est qu'on se reconnaît quand on parle de sirop d'érable, on se reconnaît quand on parle d'épinette noire, on se reconnaît quand on parle du fleuve. Puis ben, pour moi, c'est important de le chanter puis de le dire qu'on est fier de ça.
C'est un beau mot de la fin. Parce que malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Ça va me faire un grand plaisir de te réinviter si jamais tu fais paraître d'autres chansons. Merci Beluga et Louis Solem d'être passé à Chérie J'arrive. On va se laisser pour une pause publicitaire.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudra prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien, mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier,
il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des Belois. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. Mais vas-tu toujours y avoir de l'eau dans mon vin? Il va-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as, c'est une tranche de pain? Quand le vent souffle, moi je sais d'où c'est que ça vient. Y en a qui ont tout, pis toutes les autres qui ont rien. Change-moi ça.
Damien Robitaille avec sa chanson qui est maintenant populaire, c'est L'Homme Autonome. C'était sur un album qui s'appelait justement Homme Autonome, qui est sorti en 2009. Ça fait un bail, et depuis ce temps, il est rendu populaire, entre autres aussi avec ses covers de plusieurs chansons. Pourquoi est-ce qu'on vous fait écouter ça, Gabriel?
Parce que c'est un homme orchestre et qu'il va être à l'Orchestre symphonique de Québec dans le spectacle L'Homme et l'Orchestre. Dans cette thématique, donc, on va avoir droit à une performance de Damien Robitaille accompagné pour la première fois d'un orchestre symphonique. Voilà. On va avoir autant des morceaux de son répertoire propre à lui que des covers, justement, tout en couleur et... tout en couleur comme le personnage qui est Damien Robitaille. Et voilà. On va continuer un petit peu à parler justement parce que ce matin, on est allé voir le dévoilement de la première partie de la programmation de l'Orchestre symphonique de Québec. Étant que la deuxième partie de la programmation, vu les règles sanitaires et tout, est à venir et à préciser un petit peu plus tard dans l'année.
Il nous donne une suite de spectacles jusqu'en décembre qui va terminer, entre autres, justement, avec Damien Robitaille. Qui est le 10 et 11 décembre, donc Damien Robitaille, comme tu l'as dit, L'Homme et l'Orchestre. Mais il y a plusieurs spectacles d'ici là, entre autres le 16 septembre, ça va commencer cette programmation-là avec la Russie romantique. Ce matin, je trouvais ça assez intéressant qu'ils présentaient les spectacles à chaque fois parce qu'on nous racontait un peu les choix des chansons, des pièces qu'on choisissait. On nous présentait le ou la chef qui allait mener justement cette pièce et comme à l'habitude des codes de musique classique, on a des solistes, donc ça peut être un violon, ça peut être un pianiste,
clarinettiste par moment, mais je pense que dans la programmation de première partie,
on a violoncelle,
on a piano et on a violon.
Et voilà.
Donc c'est ça, puis pour faire un court résumé de tout ça, parce qu'on a énormément de choses, dans les présentation qu'on va avoir. Assurément, la Russie romantique est une des premières, la première de la nouvelle saison le 16 septembre. On va y voir des pièces Rachmaninov, pardon de la prononciation, qui est dans le romantique. Donc, on situe une Russie qui est fière d'elle. On a quelque chose qui est très près de du Tchaïkovski qu'on connaît, qui était exactement dans la même époque. On va pouvoir entendre justement le concerto pour violon de Tchaïkovski qui sera dirigé par Rachel Barton Pine, la violoniste pour celle-ci. Puis d'ailleurs, le chef est d'Estonie, Olari Eltz. Donc on a quand même un peu de cohérence avec les influences.
Ouais,
là.
Puis c'est un peu ça qui m'a frappé quand on nous a décrit la programmation. C'est international à fond. On a des gens de l'Europe, évidemment Europe de l'Ouest, Europe de l'Est. On a des Américains, on a des Canadiens, on a des gens aussi de l'Asie. On va partout. La prochaine pièce dont on voulait parler, c'est la Symphonie Fantastique. Et on n'en dira pas trop parce que sur cette pièce, c'est l'entrée en scène de Bramwell Tove, qui est le nouveau chef invité principal. Cet événement ce matin au Grand Théâtre, le dévoilement de la programmation de l'Orchestre symphonique de Québec était assez spécial parce que on est en train de se retrouver un chef d'orchestre et là, ils nous ont bien précisé, ce n'est pas un chef intérim, c'est un chef invité principal parce qu'il va y avoir...
pour environ 2 ans quand même. Et le voilà. Processus de choisir un chef d'orchestre, c'est tout de même un processus qui est assez fastidieux. Ça demande énormément d'auditions, ça demande beaucoup de... Je dirais pas des tests parce qu'en tant que test, on parle de spectacle, mais on a besoin de trouver une certaine cohésion entre le chef et son orchestre. On a besoin de s'approprier un peu un répertoire et voir quel type de musique et de où on aimerait pratiquer avec notre orchestre. Et puis, Bramwell Tove est le chef qui va faire son entrée pour l'entrée en scène, en fait, de la Symphonie Fantastique. D'ailleurs, on note qu'il y a une petite prestation d'une œuvre canadienne pour ouvrir cette prestation-là. Sinon, le 3 octobre, on va avoir la 7e mélodie de Beethoven où on va avoir un peu plus d'impressionnisme. On va aussi avoir une des pièces de Paul McCartney. Oui, le
Paul,
Beatles,
comme ils ont dit.
Le Paul. Parce que oui, Paul McCartney a quand même dans son répertoire écrit de la musique classique.
La musique de chambre,
exactement. Donc, on va pouvoir entendre aussi la 7e symphonie de Beethoven avec une rythmique irrésistible et audacieuse, reprendre les mots.
Pour continuer avec la programmation, il y a la Symphonie du Nouveau Monde qui va être au Palais Montcalm parce que tous les spectacles ne sont pas seulement au Grand Théâtre, il y en a aussi au Palais Montcalm. Ça, c'est le 13 octobre avec Valentina Pellegi en tant que chef et Inon Barnatan en tant que soliste au piano. On a la très populaire 9e Symphonie de Beethoven qui sera au Grand Théâtre le 3 novembre avec un quatuor de musiciens, musiciennes. On a des sopranos.
Vocal.
Oui, voilà.
C'est l'accompagnement en fait du chœur de l'orchestre que ça fait un bon moment, semblerait-il, qu'ils n'ont pas eu la chance de performer ensemble. Je pense que ça menait à la première moitié de la dernière saison qui a eu lieu de l'Orchestre symphonique de mémoire. Puis justement, ce concert grandiose va s'ouvrir avec une pièce d'un compositeur québécois, Simon Bertrand. C'est la pièce du Crépuscule à l'aube qui amène beaucoup de contrastes entre la guerre et la paix, la noirceur, la lumière. C'est du moins comme ça qu'il nous le présentait. Donc, on va vraiment être dans... peut-être. J'ai quand même quelques concerts de musique classique à mon historique, mais je pense qu'on va avoir droit à quelque chose d'assez émotif dans ces performances-là.
Tout à fait. Et par la suite, le 24 et 25 novembre, il va y avoir Lortie et Litz qui va compléter cette programmation-là. Là, je vois le temps qui file, donc on va devoir enchaîner un peu plus vite. Les deux prochains spectacles sont les coups de cœur de l'OSQ. C'est des spectacles un peu plus populaires, musique populaire. Moi, c'est deux concerts qu'on m'a annoncés. Je me suis dit, faut réserver tout de suite, mais on va devoir attendre un peu. Le premier, c'est le 8 et 9 octobre, la musique de James Bond qui va être accompagnée par l'OSQ.
Exactement. On va pouvoir... assurément retrouver les fameuses icônes du célèbre espion britannique.
Donc, avec plusieurs films aussi.
Avec beaucoup de films. On parle de Goldfinger, on parle de Skyfall, de Live and Let Die. Donc on passe vraiment à travers tout le répertoire de 007 en musique. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant qui s'en vient. On poursuit avec ce qu'on vous a parlé un petit peu au début avec Damien Robitaille le 10 et 11 décembre 2021. Donc comme je disais, répertoire à lui, répertoire de pas de cover, mais de reprise. Et on termine avec un concert jeunesse qui s'appelle Ludovic et la tempête, qui va avoir lieu le 7 novembre, qui est vraiment entre les classiques et découvertes. Donc, on va autant toucher à du Beethoven que des découvertes aussi, qui vont toujours être adaptées avec une histoire de la scénographe Janie Lavoie. Donc, on voit un Ludovic qui est en tempête et qui doit aller chez ses voisins. Et voilà. Et on le poursuit à travers toutes ses épopées, suivie d'une petite mélodie à gauche et à droite.
On a eu des vidéos de présentation et le metteur en scène, justement, de Ludovic et la tempête, qui s'appelle Bertrand Alain, était très charismatique.
Lui, oui, en effet.
Qui a aussi spécifié que de faire un spectacle pour un public plus jeune qui est assez dynamique, qui répond très rapidement à savoir est-ce qu'il aime ça ou pas. C'est un beau défi et il était très content de pouvoir participer à mettre en scène justement Ludovic et la tempête. On va se laisser en musique avec Flore Laurentienne et après, on va vous allez entendre finalement les réponses d'une entrevue qu'on a eue avec le nouveau chef invité de l'Orchestre symphonique de Québec, Bramwell Thauvé. Manquez pas ça. Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et c'est maintenant le temps de vous parler de Bramwell Thauvé, qui est le nouveau chef invité de l'Orchestre symphonique de Québec dont on nous a présenté ce matin au Grand Théâtre de Québec. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur M. Thauvé?
Bien, M. Thauvé, Maestro Thauvé, pour lui donner son titre tel qu'il le mérite, est tout de même un lauréat Grammy et Juno. C'est un chef compositeur qui a récemment ajouté à ses fonctions celle de chef principal du BBC Concert Orchestra. On parle d'un orchestre qui est tout de même assez moderne, actuel, qui reprend de la musique de film, qui fait des collaborations avec des grandes stars et qui joue surtout des morceaux de plus de culture populaire. Donc, ouais. Un orchestre qui a en but de démocratiser un peu le style orchestral. Et on peut aussi lui donner les rôles de conseiller artistique du Rhode Island Philharmonic à New York et celle de directeur artistique de l'Opéra de Calgary. On a un très, très beau pedigree pour monsieur Maestro Thauvé.
Et voilà, et je lui ai posé quelques questions tantôt quand je l'ai eu par entrevue téléphonique. Tout d'abord, je voulais savoir comment est-ce que ça avait commencé son parcours musical.
Je commence avec les leçons pour le piano quand j'ai 6-7 ans. Tout mon famille est très musicale, mais ils sont amateurs. Mes parents chantent avec Londres, à Londres. Ma grand-mère joue le piano pour un chœur à Londres. Mais je suis le premier professionnel musicien dans ma famille. So, 6 ou 7.
Donc, il avait commencé à 6 ou 7 ans et, comme il a dit, il est londonien. Donc, il nous a donné le plaisir de pouvoir aussi se parler en français. Mais il y a des fois que je lui posais les questions en anglais pour savoir aussi plus finement. Mais c'est bien apprécié de pouvoir savoir aussi qu'il parle français. Il vient à Québec. Il connaît bien Québec. Avant de parler de Québec, je voulais aussi lui parler de sa carrière qui est assez étoffée. Je voulais savoir son plus grand défi et aussi ce dont il est le plus fier.
What was the biggest challenge throughout my musical career? You know, when you are a musician, you pursue excellence. This is not the same as elitism, it's different. But you pursue excellence every day of your life. You always want to be better than the last time you did a particular piece, or better than you were yesterday. And this understanding that this needed to become a habit came to me only when I was in my 20s and 30s, and I realized how important this was. So I think the biggest challenge has been to keep developing, keep learning from those who are younger than you. That's the biggest challenge. I'm very proud of the music school that we began at the Vancouver Symphony Orchestra, and which has just celebrated 10 years. I'm very proud of the new music festival at the Winnipeg Symphony Orchestra, which has just celebrated 30 years. And I'm very proud of the new concert hall in Luxembourg, which I opened when I was music director there. That was in 2005. So I'm proud of these three things because they are permanent. They're part of the community now. And it's important to realize that it takes more than one person to create these things. It's a whole team of people. But I'm very proud to have been part of those three achievements.
On voit Maestro Tovey qui nous parlait d'un de ses plus grands défis qui est la poursuite de l'excellence. Quelque chose qui est, à mon sens, très musical, très musicien et surtout au niveau de la musique classique. Bon, c'est des virtuoses pour être là. Il parlait aussi comme quoi que c'était important pour lui de rester à jour, de suivre les courants de la musique et autant s'adapter avec la réalité des jeunes prodiges qui l'accompagnent, que ce soit au niveau soliste, que ce soit au niveau des autres maîtres d'orchestre. Donc vraiment, on a droit d'avoir un maestro qui est tout de même très, très, très à la recherche de l'excellence cet été pour le Symphonique de Québec.
Et voilà, il m'a nommé trois choses pour lesquelles il était très fier. C'est des écoles de musique avec qui il mentionnait que c'est pas seulement lui. Il est entouré d'une équipe pour faire ça. Il y en a dans l'ouest du Canada. Il y en a nommé aussi celle au Luxembourg. Donc, il est très fier de pouvoir avoir ça à son actif. Je voulais aussi lui poser quelques questions sur la ville de Québec parce qu'il était déjà venu à Québec et il m'a décrit à quel point il aimait cette ville.
Oh, I love Quebec. It's beautiful. It's Europe tradition, European tradition, with great French culture through the eyes of a wonderful cultural life in Quebec, the province of Quebec. The city, I just love particularly the old town. And I love the situation of the old town on the river, I find it's a very history and culture conscious place. I've been to Quebec maybe 6 or 7 times to conduct, 5 or 6 times with the orchestra, Symphonique de Quebec, once on tour with the Vancouver Symphony, and every time
I've enjoyed performing there. It's just I just find it the probably for me the most attractive city in North America, and I mean that. It's not the biggest. It's not the most loud. It's not the extravagant, but it is very beautiful, and its historical significance and situation, the contribution of French cultural life from Quebec to the rest of Canada is just wonderful, and I think it's made Canada something much richer than it would have been, much richer than it would have been without it. I adore Quebec, actually.
On voit un maestro Tove qui est enchanté de retrouver la ville de Québec après 6 ou 7 à vrai dire participations avec différents orchestres avec l'Orchestre symphonique de Québec. Donc il nous parlait à quel point il est en amour avec le Vieux-Québec, la culture francophone, de l'impact aussi que la culture francophone québécoise a sur le restant du Canada et surtout de l'importance historique de la culture québécoise. Il mentionne aussi que selon lui, la ville de Québec, c'est l'une des en fait la ville la plus attractive en Amérique du Nord. Il mentionne que c'est non pas la plus grande, non pas la plus excentrique ou quoi que ce soit, mais qu'elle est magnifique.
Tout à fait. On va devoir y aller rapidement, mais je lui avais posé aussi la question puisqu'on a un public de jeunes adultes, d'étudiants qui nous écoutent, comment est-ce que ces personnes-là peuvent apprécier un spectacle de musique classique sans nécessairement connaître les codes de ce genre musical?
You know, first of all, just turn up and come and let the sound wash over you, because the sound of a symphony orchestra is magical. It's complete harmony, teamwork, beauty. It has a visceral power that just reaches out and touches the listener. Don't worry about not knowing the codes or the behaviors or anything like that. None of that matters. It doesn't matter if you wear T-shirt and jeans or evening suit. You can wear whatever what the heck you like. And I think there are always programs with information about the pieces in them written in everyday language. And these days, you can Google easily information about any composer, any piece, and find paragraphs all over the internet that are non-specialist and in everyday language. But the important thing is the listener, because if the listener allows the music to hit them, to absorb them, to hold them, the music speaks for itself. People may not know the code or the etiquette. None of that matters. What matters is that when you hear a beautiful melody, when you hear a great, thrilling brass section, when you hear the deep, rich sonority of a string section, these are moments where composers speak directly to the listener, whether that listener is an expert or whether that listener knows nothing. I'm always impressed by how Beethoven speaks to young people. And he's a rock star. My children growing up adored Beethoven because he was unbuttoned and he was very direct. And that's how one should approach it. Just go for it.
Que ce soit en jeans, que ce soit
en tenue de soirée,
le conseil pour aller écouter de la musique, c'est tout simplement de s'y laisser emporter. La musique parle par elle-même. La musique, elle est beaucoup plus facilement approchable qu'on le pense maintenant avec les technologies comme Google qui nous permet d'aller aller chercher des résumés sur les différents compositeurs qui vont aller là. Mais il nous dit vraiment... Venez apprécier, puis vous allez vous rendre compte que c'est plus facile qu'on le pense. Puis pour avoir eu ce petit moment-là à passer de est-ce que je suis capable d'aller voir un orchestre, honnêtement, c'est un des moments les plus magiques que quelqu'un qui aime la musique peut se permettre de vivre dans sa vie. Et je le recommande à tous, et on a quand même la chance d'avoir vraiment un chef de nom à Québec pendant au minimum 2 ans à gauche et à droite. Et si c'est pas lui, on parle de des chefs qui sont tout de même de très grand renom, d'Italie, de Norvège,